Par rapport à la formation des enseignants, enfin, qui me concerne dans ma fonction, ce schéma sur le fait que la pensée logique, la pensée créative, l'adolescence et puis cette chute, en fait, je me rends compte que quand je retrouve des enseignants de mes formations, que je leur demande simplement de dessiner quelque chose, que je devais faire un travail pour accepter que les gens se soient arrêtés à un moment ou à un autre, les remettre à reprendre confiance. Et je me suis rendu compte que, par exemple, sur une journée ou deux jours de formation, à partir du moment donné où ils ont senti un déplacement avec les quelques outils que j'ai commencé à leur remettre en main, et puis il y a du temps qui a passé, c'est-à-dire que c'est devenu des adultes et tout, ils savent saisir, le truc repart. On voit des enseignants tout d'un coup se diriger sur ce genre de projet parce qu'ils ont gardé ce lien avec nos disciplines et ceux qui l'ont coupé. Et en fait, l'enjeu, c'est de redonner du plaisir et de se rendre compte de l'importance de ces activités pour qu'ils se remettent à le faire avec leurs élèves en se disant « mais c'est important ». Parce que, comme vous disiez, l'évaluation, elle fait une transformation dans l'enseignement, notamment dans l'école élémentaire. Et je vois beaucoup de fiches, beaucoup de trucs où on se dit qu'on fait du travail, mais je vois des enfants essoufflés en arrivant en cycle 2, parce que c'est de plus en plus difficile, et puis il y a une espèce de... voilà, je sais pas comment dire. Et ensuite, en plus, un décalage sur le sens. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Parce que ça se perd aussi. Donc j'ai été très sensible à ce que vous avez dit et je pense que c'est utile parce qu'on est tous en formation toute notre vie, même là nous maintenant, et arriver à avoir 2-3 éléments pour les introduire dans la propre conscientisation des enseignants qu'on accompagne lors de formations continues pour justement arriver à ce qu'ils soient dans la globalité du développement en se rendant compte que systémiquement c'est tout ça qui fait que les choses avancent, voilà.
Mais c'est peut-être juste un commentaire, mais c'est toute la difficulté de la formation des généralistes. Où à la fois, il faudrait pouvoir travailler sur leur rapport aux disciplines, qui sont en tout cas en partie ébréchées. Hein. On peut parler avec les branches artistiques, mais on le voit avec les maths, on le voit, hein, des mathophobes, il y en a plein les classes. Et puis, à la fois... leur fournir quand même un certain nombre de savoirs disciplinaires que s'ils ne les ont pas à disposition, ils ne vont pas pouvoir outiller leurs élèves. Et surtout, ils ne vont pas pouvoir observer justement ces façons de faire qui sont divergentes, qui sont originales, qui sont mais efficaces parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances disciplinaires par rapport à ça. Donc, c'est toute la difficulté de la formation et en tout cas... ben, de mon point de vue, ça peut pas être une formation qui dure une année, ça c'est sûr.
Oui, bonjour. Moi, je me demandais, pour en revenir à la question des adolescents, et du coup, ça rajoute peut-être une question à la conclusion encore, c'est qu'est-ce qui, en fait, forme ce regard critique chez les adolescents? Qu'est-ce qui leur donne cette conscience critique? Est-ce que c'est la société? Ou est-ce que c'est un processus de développement naturel chez eux? Et du coup, je me dis, est-ce que nous, on n'a pas, dans l'enseignement, quelque chose à faire sur cette manière, sur ce regard qu'ils portent sur eux-mêmes et du coup qui rend leur production artistique souvent figée parce qu'ils ont la peur de mal faire.
Alors je sais pas d'où ça vient, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du développement normal et enfin, pour moi il y a deux problèmes. Il y a le fait que fatalement à un moment donné ils vont regarder, on sait qu'ils vont, avoir un regard sur leur production, donc je pense qu'il faut agir à deux niveaux. Un niveau, c'est ne pas leur inculquer l'idée que ce regard, il appartient à quelqu'un d'externe, ce qui est le cas du problème de l'évaluation, souvent. Hein. Et donc, avec tous les biais que ça peut avoir, où à un moment donné, je pense que c'est parce que le prof, il m'aime pas, qu'il aime pas mon dessin, enfin, tous les biais que ça peut avoir avec ce regard externe. Donc, les accompagner dans le regard qu'on va porter sur cette production. Et ça, je pense qu'on peut commencer avec des beaucoup plus jeunes, même si c'est pas encore leur intérêt, même si c'est pas ça qu'ils vont regarder, mais construire, leur apprendre à regarder cette production et à ne pas la regarder en soi, mais à la regarder par rapport à ce qui a été investi, par rapport à l'histoire qu'elle raconte, enfin, à prendre un peu de densité par rapport à ça. Et puis l'autre chose, ben, c'est peut-être aussi de... Et c'est là encore peut-être plus qu'ailleurs le rôle de l'éducation par l'art, c'est de développer un regard qui soit un regard qui ouvre, un regard fait d'hypothèses, un regard qui soit pas uniquement jugeant en termes de beau, pas beau, bon, pas bon. Et là, je pense que l'éducation artistique, elle a un rôle fondamental à jouer. Quand j'apprends à observer une œuvre, quand je... On l'a vu hier avec le cirque, hein. Les enfants ne vont pas au cirque et ne vont pas regarder le cirque de la même manière après avoir travaillé 2 ans de cirque que ce qu'ils l'auraient fait s'ils ne l'avaient pas fait. Donc aussi, je travaillerai les deux choses. J'ouvrirai par l'éducation, par l'art, leur regard sur les produits, mais je les accompagnerai dans la façon dont on observe et qu'on regarde un produit. Et là où je vous rejoins sur le rôle de la société ou de l'école, c'est que on leur transmet des façons d'évaluer ces produits. Et c'est là qu'il faut peut-être réfléchir à quels outils d'évaluation des produits on leur transmet.
Moi, j'ai une question. Je me donne la parole après Christine, après Patrick. Moi, je me posais la question, finalement, bon, tu as inscrit ton discours dans la dialectique, hein, disons le vrai jeu et puis l'apprentissage. Mais cette histoire dans l'apprentissage, peut-être, ou dans les situations d'apprentissage proposées, qui a été mentionné par Jean-Marc Lauré et par moi-même à différents moments, cette histoire de pensée divergente de Todd Lubar, où il y a aussi là, dans le processus d'apprentissage, une manière ou une didactique, je ne sais pas comment tu le dirais, pour construire aussi la créativité ou l'image. Voilà, je voulais savoir comment tu reliais ça.
Alors c'est vrai que c'était pas la porte d'entrée avec les petits. Ce que je suggère, c'est de terminer de travailler d'entrée par le jeu, déjà parce que c'est aussi une phase transitionnelle entre ce que j'ai vécu hors de l'école et à l'école, d'entrer par le jeu et de mettre en place des moments qu'avec ma collègue Isabelle Trouffert on appelle des réunions, c'est-à-dire où après une heure de jeu, on se réunit autour d'une production, autour d'un problème rencontré par des élèves. Ça peut être un dessin, une construction, mais ça peut être aussi une construction qu'ils n'arrivent pas à produire. Ça peut être... c'est égal. Et puis, on réunit les élèves autour de tout ça et on fait parler d'abord les élèves qui n'ont pas participé, qui ne sont pas les auteurs de ce qui va être démontré. Et là, en termes d'hypothèses, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils s'y sont pris? Qu'est-ce qui a posé problème? Quelles sont les difficultés? Enfin, qu'est-ce que tu vois dans ce qui est présenté? Là, déjà, on essaie d'ouvrir, peut-être, c'est aussi une réponse par rapport à votre question, d'apprendre aussi à porter un regard ouvert et un regard fait d'hypothèses sur quelque chose qui est produit par des élèves. Ensuite, on donne la parole aux élèves qui sont à l'origine de tout ça et qui racontent, bon, à leur façon aussi, qui racontent ce qu'ils ont fait, ce qui pose problème, ce qu'ils ont envie de montrer, qui racontent des éléments de ce type-là. Et donc on travaille à la fois à la capacité à revenir sur ce qui s'est passé, donc en termes métacognitifs, en termes d'autorégulation aussi, mais aussi à l'ouverture d'hypothèses, à l'ouverture de possibles. Et puis... Ben là déjà en termes d'ouverture, ça génère tout de suite plein de choses, parce que quand on a fait ça, dans les jours qui suivent, on va voir les enfants jouer à d'autres choses auxquelles ils auraient même pas eu idée, parce qu'on a, mais pas nécessairement à imiter ce qui s'est passé. Donc ça ouvre des idées de jeu qui sont différentes. Mais dernier élément, on termine ces phases de réunion par c'est l'enseignant qui va nommer, qui va dire, ben, là par exemple, vous êtes dans un jeu où vous organisez un calendrier, vous auriez besoin, pour pouvoir continuer, d'apprendre les jours de la semaine. Donc, prochainement, c'est ça qu'on va travailler. On va travailler ensemble les jours de la semaine, où on va travailler ensemble la notion d'équilibre. où on va travailler ensemble la catégorisation. Et puis on pose tout ça. Puis un autre moment dans la semaine, eh bien on va travailler de manière structurée ce qui a été proposé là. Mais c'est, je pense, autour de cette réunion qu'on ouvre à la fois la pensée divergente, où on ouvre des hypothèses, mais on entre dans la démarche scientifique, dans la démarche... On entre dans la capacité à se voir apprendre, on entre dans... Je pense que cette réunion, elle est centrale par rapport à ça, et c'est là que je fais l'articulation entre les deux.
Merci. Merci pour votre intervention qui est fort intéressante et dans l'intérêt à mobiliser effectivement cette capacité qui est l'imagination. Vous montrez bien les similitudes dans les différents rapports et l'intérêt de les mobiliser. On comprend bien l'intérêt de les mobiliser à la fois dans une pratique artistique ou dans un travail autour de l'art, dans une approche scientifique aussi. Mais est-ce qu'à l'inverse, il y aurait des différences de mobilisation de l'imagination, de l'imaginaire, entre une démarche artistique et une démarche scientifique?
Oui, j'ai été très rapide au départ sur... Quand je veux enseigner quelque chose aux élèves, je vais partir de la notion d'outil. Hein. Je vais toujours me demander, essayer de faire une analyse de cet outil qui soit à la fois de comprendre ce qu'il est, de quel savoir il s'agit, etc., mais à la fois dans une perspective plus historique. C'est de me dire, qu'est-ce que ça apporte à l'homme? À quoi ça répond? Quels outils de pensée cet outil-là va permettre? Et évidemment, les outils de pensée mathématique vont me permettre de... vont améliorer mes capacités d'agir et de penser dans des champs bien particuliers, dans l'organisation, dans la structuration, peut-être dans la déduction. Je fais usage des diagrammes de Venn, je ne sais pas si vous avez connu ça, vous, de cette forme de pensée quand je dois essayer d'identifier quel est le pays dans lequel je vais aller en vacances. Enfin, je me dis, il faut qu'il soit moins de 2 heures d'avion, qu'il y ait du soleil, qu'il y ait la mer. Eh bien, je pense par diagramme de Venn. Je ne dis pas que je les dessine, mais c'est bien ce mode de pensée-là que m'ont permis les mathématiques. Et du coup, les modes de pensée qui sont offerts par les arts et par chaque discipline artistique ne sont pas les mêmes. Ils répondent à quoi? Ils répondent à d'autres. Ils permettent à l'homme autre chose. Et par les arts, ça va plutôt être la représentation de ce que je peux percevoir ou du sensible. Là, je vais m'engager sur une voie que je connais pas bien, mais on peut postuler que dans l'histoire de la peinture, l'homme a essayé par la peinture de représenter ce qu'il éprouve sur le plan visuel. Et on voit bien comment ça s'est modifié dans l'histoire, entre un besoin, une recherche de coller à la réalité, une recherche de coller à l'impression, avec tous les mouvements impressionnistes, etc. Et du coup, c'est un autre bout de ma vie, un autre bout de ma réalité, de mon quotidien, que ces outils-là vont répondre. C'est pour ça qu'ils ne sont pas interchangeables, et c'est pour ça que toutes les disciplines ont du sens. C'est pour ça que toutes les disciplines, de mon point de vue, toutes les disciplines se valent sur le plan du développement. Simplement, elles m'apportent des outils pour d'autres dimensions de ma vie. La musique étant une éducation du son. Et je ne sais pas si je réponds à votre question. C'est vraiment de se dire à chaque fois, qu'est-ce que ce que je travaille avec mes élèves, où est-ce que ça va leur apporter quelque chose en termes de possibles de la pensée qu'ils n'avaient pas avant. Évidemment, la carte de géographie m'apporte des possibles de pensée totalement différents que la peinture ou que l'écriture ou etc.
Je vais poursuivre dans le même sens, d'une autre façon, votre question, mais si je comprends ce que vous nous dites, c'est que vous nous dites que finalement, on ressent, on éprouve, on est ému. D'autant plus qu'on a du capital culturel finalement et quelque chose qui est dans l'histoire de l'homme. Mais peut-être je pense que vous saisissez que ça va quand même à l'inverse d'un certain nombre de conceptions qui peuvent être des conceptions qui sont très répandues, notamment dans les milieux de l'enseignement et de la formation. Et ce que je trouve intéressant dans votre perspective, c'est que vous dites que, en fait, voilà, ça paraît un peu paradoxal qu'on puisse se dire que pour organiser une activité artistique à l'école maternelle, on ait besoin de comprendre quelque chose à Vygotsky. Ça pourrait paraître un peu pédant, hein. C'est-à-dire, ce que je trouve intéressant, et ce que je voudrais sémiotiser pour le coup, hein, dans notre groupe, là, c'est que vous dites quand même quelque chose qui est un peu contre les conceptions dominantes. C'est-à-dire, il n'y a pas de préexistence du sujet. Il n'y a pas de préexistence d'un imaginaire riche qu'il suffirait de développer comme une fleur qu'il faudra arroser. Et vous nous dites qu'il y a entre pensée et langage des choses qui sont pour le coup extrêmement en va-et-vient, quoi. Et dans cette idée que, alors, Yves Clos, qu'on aime bien citer, hein, dit souvent ici que l'individu est la forme supérieure du social. C'est un peu l'inverse de ce qu'on pense très souvent. Et donc, du coup, ma question, elle est, est-ce que dans les formations de formateurs, on n'a pas un petit déficit pour nourrir cette controverse autour des modèles sur ce qu'est l'apprentissage et le développement ? Au nom parfois de doxa, c'est-à-dire que, vous l'avez bien dit au départ, puisque l'école serait un peu normative, alors il suffirait de libérer l'espace pour que mille créativités fleurissent. Et vous nous dites, ben non, il faut sémiotiser, il faut mettre des outils, etc. Et vous dites finalement, il en est de la mise en discipline en art comme de la mise en discipline en sciences, en histoire ou en français, c'est parce qu'on va outiller les fonctions supérieures qu'on va permettre aux individus d'être pensants, créatifs, etc. C'est un peu contre-intuitif, non ? Par rapport au doxa qui circule dans la formation aujourd'hui. Dans la formation de formateurs, j'entends. Hein ? Je vous pousse un peu pour qu'on sémiotise ce débat-là entre nous, quoi.
Alors, je suis d'accord que c'est pas en adéquation avec ce qui circule et les doxa actuels. Contre-intuitif, je suis moins d'accord. Parce que Là, si je parle du point de vue intuitif, pour avoir continué à me former jusqu'à mon grand âge et être encore en formation, à quel point je mesure les capacités, l'augmentation de mes possibles et de mes capacités, même adulte, à chaque fois que je construis de nouveaux apprentissages. Alors, contre les doxas, oui, je pense que, en très 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 raccourci, hein, on a vécu dans les années... Suite aux travaux notamment de Bourdieu et autres, on a remis en question on s'est questionné sur la difficulté de certains élèves, plutôt d'élèves défavorisés, à pouvoir réussir à l'école. Et les hypothèses qui ont été posées à l'époque sont à l'origine de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est qu'on a posé l'hypothèse qu'ils n'étaient pas motivés. Et du coup, on a posé l'hypothèse que puisqu'ils n'étaient pas motivés, il fallait trouver des manières de les motiver. Mais on a posé l'hypothèse aussi que apprendre, c'était quelque chose de désagréable, en tout cas pour ces élèves-là. Donc, il fallait leur cacher qu'ils étaient en train d'apprendre. Je l'entends encore très souvent, hein, dans le monde de la formation des enseignants. Cachez-leur qu'ils apprennent, parce que s'ils savent qu'ils apprennent, ils apprendront plus. Et ainsi de suite. Et puis... On a mis en place tout plein de modèles ou de façons de faire avec ces croyances derrière, partant vraiment d'un bon sentiment. Et puis, les recherches récentes, notamment les travaux d'Escole, montrent que, ben, on s'est planté. Je dis « on » parce que j'en fais partie. J'ai cru, il y a 15 ans, 20 ans, j'ai cru aux pédagogies camouflantes qui embarquent les gamins et qui les motivent. Avec plein. Alors oui, ça marche à court terme, ça marche. Vous avez un groupe devant vous, ils fonctionnent, ils agissent, ils sont contents, tout le monde sourit. Puis hop, derrière, ben il y a pas, ben ça s'écroule parce que j'ai pas d'outils, parce que je peux pas continuer, parce que je me suis exprimé, je me suis éclaté, et tout ce que vous voulez, mais je sais pas, j'ai pas de base musicale qui me permette de trouver, d'être fier de ce que je suis en train de construire. Et puis aussi, on se rend compte qu'on ne peut pas apprendre sans savoir qu'on apprend. Et ainsi de suite. Donc il y a vraiment eu ces mouvements-là et on est encore en plein dedans. Il y a encore, en tout cas sur le terrain, en tout cas en Suisse, mais aussi dans la formation, ces croyances que apprendre c'est quelque chose de désagréable. J'ai pas dit que c'était un plaisir tous les jours d'apprendre, hein. Mais que plutôt que d'accompagner l'enfant dans, mais en art vous le vivez aussi, un processus artistique c'est pas du plaisir de A à Z, hein. Donc leur faire croire que le processus artistique c'est du plaisir, puis ça sort comme ça, hein. Je reprends l'exemple de l'écriture, moi, et je vois mes étudiants le disent régulièrement, j'ai longtemps cru que ceux qui savaient écrire, tchouf, ça sortait comme ça. Et que ceux qui étaient de grands peintres, ben, tchouf, ça sortait comme ça. Et du coup, d'avoir construit cette idée-là, eh bien, au moment où je commence à regarder ce qui se passe, ben, fatalement, je peux que déduire que j'ai pas le gène. Puisque ceux chez qui ça marche, c'est fatalement que c'est génétique. Donc j'ai aucun intérêt à avancer. Et je pense que là, il y a vraiment une... Alors je ne sais pas si je suis dans le juste, mais je pense que j'ouvre une hypothèse pour essayer d'aller... de résoudre un petit peu cette question-là. Et interroger les adolescents, mais je pense que le 90% des adolescents, si ce n'est pas plus, même des adultes, sont convaincus que on est doué ou on ne l'est pas.
Juste sur cette question-là, hein, peut-être une incise, le petit bouquin que vous parliez d'Escole de Jacques Bernardin a sorti, qui s'appelle « Le rapport au savoir chez les élèves de milieu populaire », qui précise bien ce que vous venez de dire avec des enquêtes très précises, hein, sur les conceptions qu'ont les enfants sur comment on fait pour apprendre, où en gros, environ jamais plus d'un tiers de gamins pensent qu'on apprend de cette manière. Et à peu près trois quarts pensent qu'on apprend parce que c'est la maîtresse qui va nous expliquer ou parce que ça va nous tomber du ciel un jour ou qu'on n'est pas fait pour ça. Donc c'est socialement très discriminé. Voilà, je donne cette référence-là parce que je pense qu'elle peut nourrir aussi l'activité du groupe, même si ce n'est pas spécifique sur l'entrée disciplinaire qu'est la vôtre aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a encore une question pour Anne-Claire ?